Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Écoute, on a à peine le temps de vous dire bonjour, tellement il y a de choses dans l'actualité aujourd'hui. Salut Vincent.
Salut Mario, ouais, j'ai
des journées comme ça. Hein?
Ouais, la succession des points de presse, des événements aujourd'hui.
Des événements quand même majeurs. Là.
Ouais. Ouais, chacun d'entre eux aurait pu être vraiment la nouvelle numéro un, incluant le discours du trône aujourd'hui, premier discours du trône de Mary Simon. Je vais faire entendre un extrait, tantôt on parlera de tout ça, mais avant ça, le point de presse qui est toujours en cours de la protectrice du citoyen sur les décès en CHS. C'est le dé, alors je dirais un ton...
Coup de tonnerre.
Vraiment, on parle de gestion catastrophique de la première vague, entre autres. Et évidemment, le point de presse attendu à 17h qu'on va couvrir ensemble tantôt sur la vaccination des 5 à 11 ans.
Lequel point de presse a quand même été précédé ce matin, un peu à la surprise générale, par l'ouverture du site Clic Santé. Donc, les gens qui ne le savent pas encore, là, depuis environ 9h30 ce matin, vous pouvez prendre rendez-vous pour votre enfant.
Oui, et ça part vite. Alors, ceux qui veulent y aller avec ce système-là et pas attendre d'avoir les interventions à l'école, rendez-vous sur Clic Santé et essayez d'avoir un rendez-vous.
Et on va rejoindre tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario.
Bonjour.
Tout un après-midi aujourd'hui. Période de questions. La protectrice du citoyen, Mme Rinfret, qui vient de déposer son rapport sur la première vague dans les CHSLD. Le constat est simple. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas aucun plan, aucune directive là, claire dans les CHSLD. Comment as-tu réagi, toi?
Pour moi, il n'y a aucune surprise. Là. Parce que je vois des gens qui disent qu'il y a une contradiction avec ce qu'on a vu devant la coroner. Ouais, peut-être une contradiction avec certaines phrases prises isolément. Mais je veux dire, ce qu'on voit devant la coroner, là, du docteur Arruda, de la ministre McCann, des autres fonctionnaires, c'est un gouvernement qui c'est le fait que l'angle mort, là, cette expression-là est utilisée beaucoup, mais que l'angle mort de toute la crise, ça a été les CHSLD. Et on connaît quand même, on commence à connaître Mme Rinfret, la protectrice du citoyen, très directe dans son langage, très carré dans ses conclusions. Ce qui doit être dit doit être dit. Ben c'est exactement ça qu'on a dans le rapport. Là. Les CHSLD n'avaient pas été préparés dans un système de santé hospitalo-centriste, donc centré sur l'hôpital. Remarque, tu sais qu'il y a un parallèle entre tous les problèmes qu'on a vécu à la DPJ avec la petite fille de Granby, puis la catastrophe vécue dans les CHSLD pendant la première vague de la pandémie. Là. Dans les deux cas, c'est un système de santé tout concentré.
Ça s'appelle les CIUS et les CIUS, oui.
Exactement, les CIUS et les CIUS. Mais les CIUS et les CIUS, c'est que ça tourne autour de l'hôpital. Les autres affaires sont juste des greffons, là. Tu comprends, les CHSLD, les DPJ, puis tout ça. C'est toutes des appendices là, autour, là, qui ont leur budget, qui ont leurs affaires, oui, mais que les patrons sont plus des vrais patrons. Puis dans le cas des CHSLD, il n'y en a plus. Et donc, quand il arrive des crises, que ce soit DPJ, que ce soit CHSLD dans le cas d'une pandémie, tu te rends compte que les hôpitaux sont aptes à réagir, les hôpitaux sont placés en priorité, les hôpitaux reçoivent les budgets, puis les à côté souffrent. Encore plus s'il y a une crise. Et donc, la protectrice du citoyen le décrit très, 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 très bien. Ça dénote aussi, écoutez, il faudra, je pense que ça, faudra que des gens répondent aussi à certaines questions là. Il y avait des personnes dont la responsabilité, que ce soit la ministre de la Santé, la ministre des Aînés, la santé publique aussi là, beaucoup la santé publique. Ces gens-là avaient le devoir de donner des indications en préparation de la pandémie. Et pour ce qui est des centres de soins de longue durée, ça a pas été donné. La ministre McCann dit avoir donné des ordres aux CIS et aux CIUS. Est-ce que c'est eux qui ont pas pris ça au sérieux, qui ont rien fait, ou est-ce que ce qu'elle appelle des ordres, là, c'était une sorte de petite mise en garde là, dans une réunion, la moitié d'une ligne dans une réunion, puis personne n'avait vu l'importance.
Ouais, vous regarderez les journaux là, sur ce qui se passe en Europe.
Oui, c'est ça. Là.
On va regarder pour voir si ça s'en vient ici. Ça, c'était, semble-t-il, en janvier 2020, mais il n'y a personne qui a été capable de confirmer ça. Il y a des recommandations qui ont été faites de la part de la protectrice du citoyen concernant notamment, Mario, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le déploiement d'une pénurie de main-d'œuvre supplémentaire dans un contexte extraordinaire, une stratégie nationale aussi pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que Québec, parce que Québec n'est pas obligé de suivre ces recommandations, mais dans ce cas-ci, moralement, après tout ce qui s'est passé, des milliers de morts, quelle est l'obligation, selon toi, morale de Québec?
Bon, il y en a une certaine. Ce qu'il faudra mesurer, par exemple, c'est pendant la méga opération de recrutement où on a recruté quoi quelque chose comme 9000 préposés aux bénéficiaires avec une augmentation de salaire. Jusqu'à quel point ça répond là à ce que la protectrice du citoyen, elle fait une enquête, fait un portrait de ce qui s'est passé au printemps 2020. On est quand même rendu quasiment à Noël 2021. Donc, il s'est posé des gestes depuis. Donc, il y a peut-être certaines des recommandations qu'elle fait, mais où il y a des bouts de réponse qui ont été apportés. Mais oui, certainement que le gouvernement doit prendre très au sérieux ses recommandations. Parce qu'une des choses, Julie, qui va devoir se décider d'ici ouais. L'hiver, d'ici deux mois, on va avoir trois rapports entre les mains. Quand la coroner G.N. Kemel, qui arrive à la conclusion à la fin de ses travaux, va déposer son rapport, on va avoir un rapport de la commissaire à la santé, au bien-être et à la santé. On va avoir ce rapport de la protectrice du citoyen, là, qui est tout frais, qui vient de tomber. Et on va avoir un rapport de coroner. Et une fois ces trois rapports en main, bon, on sait déjà que l'opposition va continuer à demander une commission d'enquête là sur ce qui s'est passé. Donc, sur le printemps 2020, les décès en CHSLD. Et le gouvernement va devoir décider, est-ce qu'il se plie à cette demande-là ou est-ce qu'il résiste? Puis s'il résiste, là, ça va être demandé tous les jours jusqu'à l'élection. L'opposition va redire ça tous les jours, jusqu'à l'élection. Et il y a un certain point qu'il faut quand même regarder, là, c'est-à-dire... je comprends que c'est le fun pour l'opposition de demander une commission d'enquête, parce que tant que le gouvernement l'octroie pas, tu dis qu'il cache quelque chose. Ça a été joué dans l'opposition mille fois, je l'ai déjà fait. Là. Mais quand même, tenir une commission d'enquête, ça veut pas dire que la population veut ça non plus. Oui, la population veut que la lumière soit faite, mais là, si on a trois rapports, est-ce que la population va juger que la lumière a été faite, que les recommandations utiles ont été apportées?
Que ça se reproduise pas. Que ça se reproduise pas.
T'as raison, mais on veut quand même trouver les responsables, s'assurer que ça se reproduise pas. C'est les objectifs de ces enquêtes-là. Là, est-ce qu'on est prêt à se relancer, par exemple, dans une commission d'enquête? Bon, durer quoi? 2 ans à 3 ans? Des recommandations qu'on aurait en 2024-2025? Les coûts? Dans les dernières années, la commission Charbonneau s'est rendue dans les 40 millions. Il y en a qui ont coûté moins cher dans les 15, 20, 25 millions. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que la société québécoise veut se relancer dans un processus comme ça? Dire là, pendant les deux prochaines années et demie, puis on met ça à la télévision pendant des mois, là, les audiences, puis tout ça. Sincèrement, j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus. Je pense que les gens veulent aller au fond des choses, mais je regarde le rapport de la protectrice du citoyen, très dur, très clair dans ses reproches, etc., je me dis, qu'est-ce qu'on apprendrait de plus? Peut-être qu'on pourrait gratter plus profond. Je dis pas qu'on pourrait pas le faire dans une commission d'enquête publique. Mais tu sais, à un moment donné, c'est l'analyse coût-bénéfice. Là. Est-ce que ça vaut les millions? Est-ce que ça vaut les années, etc.? Mais donc, c'est pour ça que l'étude approfondie de ce rapport de la protectrice du citoyen, c'est une étude qui est importante. Et là, il faut s'attendre que les partis d'opposition, les journalistes à la conférence de presse de 5 heures, M. Legault va devoir répondre là, de ces questions-là.
On va y revenir à cette conférence de presse dans un instant, mais tu parlais de l'enquête là, concernant la coroner, Maître Kemel. Il y a beaucoup de confusion, Marie, sur les rapports des inspecteurs. Est-ce que c'est des rapports plutôt des grilles d'évaluation? Est-ce qu'elles ont été écrasées en faisant une mise à jour? Il en a été question à la période de questions et tu vas voir, le premier ministre a vraiment été piqué au vif. On en a un extrait.
Est-ce que oui ou non, il y a eu des rapports?
Aucun. Rapport n'a été détruit. Soyons bien clairs, c'est faux ce que dit.
Je vous demande encore une fois, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Je vous demande de m'aider. La chef de l'opposition officielle dit que j'ai détruit des documents.
Non.
Et ce n'est pas exact. Donc, qu'est-ce que je dois dire?
Mario, ça a été comme ça une grosse demi-heure au Salon Bleu. Le président a dû intervenir à plusieurs reprises, mais c'est vrai que ça devient mélangeant, là. Est-ce que c'est des rapports, des grilles d'évaluation? Où sont-elles? Pourquoi les coronaires, la coroner, Maître Gamel, ne les a pas?
Ouais, on l'a déjà abordé ensemble. Je pense pas qu'on le saura jamais. Il semble y avoir des visites pour lesquelles il n'y a pas de rapport, mais peut-être que oui, là. On semble dire que c'est des rapports où quand on remplissait des grilles, quand on revenait remplir la fois d'après la grille, ben, ça efface. Mais je trouve ça quand même curieux. Ouais. Je trouve ça quand même étonnant, là, minimalement, qu'on garde pas des traces de chacune des inspections. Mais moi, je trouve que la réponse à ça, c'est que la coroner Gamel que Jeanne Gamel reçoive les inspecteurs eux-mêmes. Leur demander comment vous faites votre travail, c'est quoi vos rapports. Je pense pas que les enquêteurs, un enquêteur qui travaille au service de l'État, au service du public, s'il dit, moi, j'ai fait un rapport telle date, il existe plus, il a été détruit. Je veux dire, là, on aura un signal d'alarme important. Mais il me semble que l'auteur du rapport lui-même doit bien le savoir. Est-ce que j'ai fait un rapport ou j'en ai pas fait? Si j'en ai fait un, il est encore trouvable? Il me semble que ce sont les principaux intéressés. Et de fait, s'il n'en reste rien d'écrit, mettons que c'est le scénario où dans le système informatique on est allé réécrire par-dessus, ben on pourra quand même demander, je comprends qu'il s'en souvient peut-être pas chacune des petites notes qu'il avait écrites sur une feuille, mais il doit quand même avoir un souvenir global de ses constats, de ce qu'il a vu, de ce qu'elle a vu. Ces gens-là, les inspecteurs, doivent quand même avoir un souvenir de ce qu'ils ont vu comme inspection. Alors, moi, à cet imbroglio, je vois pas vraiment d'autres réponses. On fera pas réapparaître. Si les documents ont été détruits avec malveillance, là, ça doit être hautement dénoncé et puni. Mais dans tous les cas, je vois pas d'autre scénario que de demander aux auteurs concernés de ces rapports.
Mario, il y a ce point de presse attendu là dans à peu près dans moins de 2 heures, même à 17h, de la part du premier ministre François Legault, notamment concernant la vaccination des 5-11 ans. C'est parti, on peut commencer à prendre rendez-vous. Est-ce que c'était une bonne idée de tenir ce point de presse la même journée où Mme Rinfrette sort son rapport sur les CHSLD et autres infos qu'on apprend là, sur ce qui s'est passé dans les CHSLD?
Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais si c'est une mauvaise idée, c'est certainement pas pour les raisons que l'opposition disait que le gouvernement voulait comme cacher le rapport de la coroner et tout ça.
Ouais,
ça,
y crois-tu, ça?
Non, ça tient pas la route. En fait, ça me paraît de bien mal connaître les journalistes, là, parce que s'il y a quelqu'un qui se met dans l'embarras, c'est le premier ministre. On aurait pu dénoncer ça s'il avait fait son point de presse juste avant, là, à 1h après-midi. S'il l'avait fait à 13h, là, on aurait pu dire, là, regarde, là, il fait juste avant le rapport de la coroner pour pas avoir à répondre aux questions. Mais là, je pense qu'à son point de presse, oui, les gens vont être intéressés. Il y a un sujet important, la vaccination des jeunes. En même temps, les rendez-vous en ligne peuvent déjà être pris à l'heure où on se parle. Donc, il va y avoir une série d'informations et de données importantes concernant la vaccination des enfants, là, toute la programmation de la vaccination des 5 à 11 ans. Mais voyons, il va être beaucoup question de penser qu'à cause de ça, parce que là, la vaccination à 5 à 11 ans, des 5 à 11 ans est tellement importante, on ne parlera plus du rapport de la protectrice du citoyen qui est une bombe qui est arrivée en milieu d'après-midi. Hey, c'est mal connaître les journalistes parlementaires. Là. Ça va être un gros sujet du point de presse. Là.
Effectivement, à 17h, Mario, d'avancer la cible de 80%, de vouloir atteindre ce 80% des 5-11 ans avant de commencer à lever les différentes mesures sanitaires, est-ce que le premier ministre s'est avancé trop rapidement, selon toi?
D'abord, 80%, moi, je pense que ça va être difficile à atteindre. En tout cas, ça ne sera pas atteint vite si ça l'est. Je pense qu'il est allé un petit peu vite là-dessus. Mais là, l'affaire qui complique la complication, là, pour rendre ça encore plus compliqué, c'est que t'as la vaccination des jeunes, pis on s'était dit, oui, là, c'est ça qui boucle la boucle, pis qui devrait nous permettre de lever l'état d'urgence, pis... Mais là, au moment où nous, on arrive à la vaccination des jeunes, puis que ça semble être vraiment une voie de sortie, c'est la vague la plus grosse qu'on voit en Europe de toutes les précédentes. Là, hein? La vague de COVID, la pire que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vague. Alors, si elle traverse l'Atlantique, comme les vagues précédentes sont finies un mois plus tard par venir chez nous, là, tu vas avoir une autre variable dans l'équation, vaccination des jeunes et autres. Là, tu vas avoir une nouvelle variable. On va voir avec quelle force, avec quelle intensité ça va frapper ici. Mais si vous regardez les propos des dirigeants européens, des chefs de gouvernement, des ministres de la Santé là-bas, ils en ont plein leur bottine.
Effectivement. Donc, bon point de presse. Mario, merci beaucoup.
Au revoir.
Bon après-midi à toi.
Alors Vincent, dans les autres nouvelles, jour de discours du trône à Ottawa, ben oui, M. Trudeau qui était encore beaucoup dans la COVID et la sortie de la pandémie.
Oui, absolument. Et bon, on sait que ce discours du trône permet de noter et de lancer à la population les priorités du gouvernement pendant les prochains mois. Et bon, clairement, on est dans une thématique là où il y a la COVID, mais aussi la réconciliation, qui était quand même une thématique importante de ce discours de Mary Simon, faut dire, gouverneur général autochtone. C'était son premier discours du trône, qu'elle a fait donc majoritairement en anglais, faut dire, mais également des bouts en français, des bouts en Inuktitut, donc sa langue maternelle. On a quand même vraiment pointé comme la COVID-19 étant la priorité là, toujours absolue du gouvernement, pour utiliser les termes employés par dans le texte. Tous les afférents, là, parce que autour de ça, il y a l'inflation. Donc, l'inflation qui sera attaquée, selon le discours du trône, par des investissements en habitation, des garderies également abordables. Donc, deux axes pour lutter contre l'inflation. Le temps de rebâtir, aussi on dit le temps de rebâtir est arrivé. Rebâtir d'une bonne façon.
Ça, je l'ai trouvé bonne, celle-là. Là. Les garderies contre l'inflation. Non, mais c'est vrai que dans le coût de la vie des familles, moins au Québec, plus au Canada anglais, mais dans Toronto,
oui,
c'est quelque chose de très coûteux, les garderies. Mais le programme de garderies, là, c'est des garderies qui vont apparaître là, en 2025, 6, 7. Je veux dire, l'inflation...
Ça fait pas baisser le prix du bœuf haché non plus, là.
En novembre 2021.
Non.
Tu vois, l'inflation, c'est un phénomène immédiat. Bon, les économistes... Il y a des économistes optimistes qui disent c'est vraiment temporaire, ça va aller mieux. Dès mars, avril, mai, ça va aller mieux. Il y en a d'autres qui disent, c'est peut-être installé pour un an. Mais j'ai pas vu d'économistes qui disent, là, c'est une décennie d'inflation. L'inflation ne lâchera pas jusqu'en 2029, là, tu comprends?
Non.
Donc, de parler d'une...
Et le point majoritaire où les prix ont monté, je pense pas que ce soit dans les services de garde. Là,
non,
c'est partout. C'est le prix de l'essence.
C'est vraiment deux affaires.
Chaînes d'approvisionnement aussi.
Oui, c'est ça. Tu peux souhaiter que les familles du Canada aient des services de garde plus abordables, c'est très noble. Mais de connecter ça à une solution à l'inflation, c'est plutôt drôle. Ça pas vraiment, c'est deux problèmes, aucun rapport entre les deux.
Mais sûr que Joe Biden qui présentait lui son plan il y a quelques jours à peine sur l'inflation, c'était de débloquer les ports. Il faut que les chaînes d'approvisionnement recommencent.
Oui, les ports avec un T, les ports de mer.
Oui, les ports de mer,
avec les containers coincés.
C'est ça. Donc, tu faut baisser le prix des services de garde ou débloquer des conteneurs.
Parce qu'on
peut attaquer l'inflation de différentes façons.
En fait, c'est tellement vrai que si vraiment les services de garde, c'était ça qui était urgent pour l'inflation, puis le coût de la vie, il faudrait abandonner son programme puis aller d'un crédit d'impôt. Là. Tu comprends, de quelque chose d'immédiatement applicable, que les familles puissent commencer à le réclamer tout de suite. Donc, t'as pas à construire des nouveaux bâtiments.
Ouais.
Les enfants restent dans les services de garde actuels, mais les parents récupèrent plus. Là.
Moi, j'ai pas d'enfants, donc je suis pas victime de l'inflation du tout. Là. Je suis à l'abri de ça.
T'es à l'abri de ça.
Bon. Et peut-être, bon, on parlait de la langue et de la réconciliation, parce que Mary Simon a parlé des découvertes, évidemment, de corps autochtones, d'enfants autochtones qui ont marqué vraiment là, l'année au Canada. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait parce que c'est, le parler français, on comprend qu'elle parle pas français. Là. Alors, elle l'a lu, elle veut apprendre. Là. On n'est pas encore là, Mario, mais je vais vous faire entendre un extrait où elle parle justement des douleurs récentes des peuples autochtones. La gouverneure générale, on l'écoute.
La découverte de tombes anonymes d'enfants morts sous le régime des pensionnats montre à quel point les actions des gouvernements et des institutions de justice ont été dévastatrices pour les peuples autochtones qui continuent à souffrir aujourd'hui.
Ouais.
Bon.
Le message est très bien, mais le français, c'est...
Ben là, ça a l'air essoufflant.
Tu comprends que moi, j'ai jamais vécu en Espagne, en Italie. Elle a vécu au Québec une bonne partie de sa vie, là, à Montréal, au Québec. Je lis sans niaiser, je lis en italien et en espagnol nettement mieux que ça. Là. Puis c'est des langues que je parle pas vraiment, mais lire, c'est une fois que tu connais les prononciations un peu des consonnes, des voyelles, des groupes.
Donc, tu sens pas qu'il y a eu beaucoup d'efforts à améliorer au moins la lecture. On est loin d'improviser un texte, mais pour lire...
Je suis même pas sur l'effort qu'elle a investi, je le sais pas. Je suis renversé que tu puisses vivre, être rendu à cet âge-là, avoir vécu une grande partie de ta vie au Québec. C'est-à-dire que t'en entends jamais. T'étais au Québec, t'étais à Montréal, jamais mettais sa télé pour entendre le son du français. Jamais d'intérêt de dire « je suis au Québec ». Jamais une petite fois, là, jamais un petit intérêt de dire une émission, un film, quelque chose qui fait 3 millions de codes d'écoute au Québec, je vais aller voir ce que c'est parce que moi, je vis ici au Québec. Si tu vivais en Espagne, tu allais vivre à Madrid, tu comprends, tu pourrais te mettre un poste français. Là,
ben, j'ai suivi un cours d'espagnol au cégep, là, j'étais pas très bon, là, mais je pense que je lis mieux l'espagnol après une session au cégep, là, en option.
Mais si t'allais vivre à Madrid, là, est-ce que des fois tu mettrais à TV au poste local pour dire,
je le fais déjà en voyage.
Ben, moi aussi. En voyage, je me mets au poste local. J'entends le son de la langue, je comprends des bouts, j'en perds d'autres, mais... C'est un vrai mystère pour moi. Pour les francophones, là, tu sens ça, là, tu dis OK, une grande partie de sa vie au Québec, là, des années à Montréal. Puis pas dans un milieu. Elle pense qu'elle travaillait à CBC. Une société d'État dans le domaine des communications. Mais, en tout cas.
Là, on dirait que c'est pas sa langue maternelle, mais l'anglais non plus. Mais l'anglais le parle.
Bon, le fédéral qui a répondu aussi aux critiques sur les armes à feu.
Ouais, rapidement vous dire que Mélanie Joly, Pablo Rodriguez aujourd'hui ont répondu à ces critiques du gouvernement provincial et de Valérie Plante à Montréal. Dans les derniers jours, on a beaucoup pointé du doigt le gouvernement fédéral comme étant ceux qui devaient agir dans le cas de la gestion des armes à feu et à la frontière. Aujourd'hui, je vais vous les faire entendre ce que Mélanie Joly voulait dire. Ben c'est un travail qui est partagé et Pablo Rodriguez revenait sur le fait qu'on a demander, accepter un transfert de certains pouvoirs concernant le contrôle des armes de poing. On peut les écouter.
Pour moi, ça m'apparaît évident que c'est une tentative de diversion.
C'est une responsabilité partagée. Parce que c'est évident qu'il doit y avoir davantage de ressources aux forces policières. Ça doit être une priorité pour la Ville de Montréal également. Et on sait que la question de la gestion des gangs de rue ne relève pas nécessairement du gouvernement fédéral, mais davantage de la Ville et également des forces policières au Québec.
Une motion unanime à laquelle tous les partis ont voté en faveur à l'Assemblée nationale qui demande la capacité de pouvoir légiférer sur les armes de poing. Et nous, après analyse, on a dit oui, on va aller de l'avant de cette façon-là. Donc on acquiesce à la demande de l'Assemblée nationale et en plus, on a mis au minimum 1 milliard $ de côté pour financer ce que les provinces souhaitent faire.
Bon, Mélanie Joly s'entend.
Sauf que c'est pas encore fait.
Non, c'est ça.
Mais c'est pas encore fait, là.
Il dit, c'est ce qu'on nous demandait, on a dit oui. Et on a du budget pour faire les changements appropriés.